France Inter, franceinter.com.
Staline a concentré entre ses mains un pouvoir illimité et je ne suis pas sûr qu'il puisse s'en servir avec circonspection. Il est trop brutal. Testament de Lénine. Mille ans d'histoire. Le 9 mars 1953, à 11h du matin à Moscou, devant une foule considérable, le corps embaumé de Staline rejoignait celui de Lénine dans le mausolée de la Place Rouge. Au même moment, la marche funèbre était interrompue par le hurlement des sirènes qui, dans tout le pays, annonçaient les obsèques de celui qui, pendant plus de 30 ans, avait régné sans partage sur le plus grand pays du monde. De Riga sur la Baltique jusqu'à Vladivostok sur l'océan Pacifique, de Tashkent en Asie centrale à Arkhangelsk dans le Grand Nord, 200 millions de soviétiques s'arrêtaient en même temps de travailler et se tournaient en direction de Moscou pour rendre hommage à celui dont le culte avait largement dépassé les frontières de l'URSS. Peu de gens, à part ses victimes, ne connaissaient encore l'ampleur des crimes de Staline. Ils n'ont été rendus publics qu'en 1956, 3 ans après sa mort, et il a fallu attendre encore 5 ans pour qu'on ose retirer le corps de Staline du mausolée de la Place Rouge. Interactualité, Serge Malenkine à Moscou, le 31 octobre 1961.
Le transfert du corps de Staline hors du mausolée s'accompagne depuis quelques jours d'une série de mesures destinées à réduire encore davantage l'auréole de celui qui, pendant des années, avait acquis en URSS une situation comparable à la déification pure et simple.
Exhumé de la nécropole où il reposait aux côtés de Lénine, veillé par des foules respectueuses, Staline est mort 2 fois. À l'ombre des Spoutniks, la génération nouvelle est invitée à oublier le premier chapitre de la Révolution. Ici repose seul désormais Vladimir Ilitch Lénine. Arraché au linceul de pourpre où dorment les dieux morts, Staline n'est plus.
Et c'était en 1961, la deuxième mort de Staline, on l'a entendu, dont le corps était retiré du mausolée de Lénine, tandis qu'on débaptisait les villes comme Stalingrad, des fleuves et même des montagnes qui portaient son nom de son vivant. Même pour les soviétiques, Staline n'était plus qu'un tyran sanguinaire, responsable d'un régime de terreur, auquel mon invité d'aujourd'hui a consacré plusieurs livres, dont le dernier, L'ivrogne et la marchande de fleurs, apporte de nouvelles révélations sur l'ampleur des crimes staliniens. Nicolas Vert, bonjour.
Bonjour.
Alors avant de parler avec vous des crimes de Staline, il faut peut-être en expliquer les causes. Est-ce que la terreur du système qu'il a mis en place est due à la volonté seule de Staline ou est-ce que c'est la conséquence logique de la révolution de 17? Autrement dit, est-ce qu'avec un autre que Staline, elle aurait pu tourner autrement?
Grande question sur laquelle les historiens ont beaucoup débattu et continueront à débattre. Je dirais qu'il faudrait revenir à des textes fondateurs de Lénine, comme par exemple « Comment organiser l'émulation », un texte de début décembre 1917, dans lequel Lénine appelle à nettoyer la terre russe de toutes ses punaises et de toutes ses puces. Sous-entendu, il le met entre parenthèses, les filous et les riches, pour voir à quel point l'appel à la violence est, je dirais, consubstantiel à la révolution. Encore faut-il que, lorsqu'on donne des ordres, il y ait des gens pour les exécuter.
Oui, mais la terreur est un peu consubstantielle à toute révolution quand elle est fragile. En 1917, 18, 19, la révolution russe est fragile, et la révolution française l'était aussi. Il y a eu également une terreur. On peut se dire qu'après tout, c'est pour éliminer tous ceux qui voulaient la faire échouer.
Simplement, en décembre 17, il n'y avait pas tant d'opposants encore. Ça va venir après. Mais il est vrai que pour qu'une terreur marche, il faut aussi des exécutants. Et il y avait un extraordinaire potentiel de violence sociale dans la Russie, je dirais, de 17, mais peut-être aussi d'avant, donc sur l'origine de cette violence, d'une société profondément brutalisée par la guerre, mais aussi où il y avait une violence d'en bas. C'est, disons, tout un pan de cette histoire sociale de la Révolution qu'il ne faut jamais oublier.
Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que cette violence est de particulier, de très singulier dans le cas de la période stalinienne, c'est que cette violence s'est retournée contre le système lui-même, contre le parti lui-même. Les premières victimes, même si elles n'ont été qu'écartées au début du pouvoir avant d'être exécutées, c'était tous les rivaux de Staline. Au lendemain de la mort de Lénine, bien sûr, on ne savait pas très bien qui allait gouverner la Russie. Lénine se méfiait dans ce testament qu'on a entendu au début de Staline, mais ce testament n'a jamais été rendu public, mais il était connu des adversaires, des rivaux de Staline qui ont été écartés petit à petit du pouvoir. Évidemment, le plus connu d'entre eux étant Trotsky, Nicolas Werth.
Oui, et c'est pour cela que, évidemment, cette citation était si importante, parce qu'au fond, Staline savait que les compagnons savaient, c'est-à-dire savaient que, au fond, il avait d'une certaine manière usurpé le pouvoir dans la mesure où Lénine, dans ses derniers écrits, l'avait, disons, condamné, en tout cas souhaité qu'il fût écarté.
Il n'était pas plus tendre pour Trotsky, il faut le rappeler aussi.
Pardon ?
Il n'était pas plus tendre pour Trotsky.
Il n'était pas plus tendre, ouais, pour Trotsky. Et il aimait beaucoup Bouharine, il disait, au fond, c'était le personnage sans doute le plus prometteur. Et pour répondre à la question que vous avez posée au début, on peut peut-être imaginer que Bouharine, qui évidemment comprenait beaucoup de choses, et notamment qu'il ne fallait pas engager une guerre contre la paysannerie, parce que ça a été ça le pas décisif et le pas, au fond, absolument central pour la société russe qui était à 85% paysanne, le grand choc, ça a été l'hiver 1929-1930, lorsqu'on leur a confisqué sa vache.
Alors ça, oui, ça c'était justement la politique économique de Staline, cette marche forcée à l'industrialisation indiquée dans les premiers plans staliniens et qui allait avoir des conséquences désastreuses dans tout le pays. On écoute Staline en 1935 encourager le développement de l'industrie.
И таким образом обеспечить быструю и полную победу путинизма.
Nous devons réaliser les conditions pour la victoire rapide et totale du communisme.
Вторая задача. Она состоит в том, чтобы наши товарищи хозяйственники.
Notre deuxième objectif est le suivant. Les bureaucrates qui sont à la traîne du mouvement stakhanoviste, les bureaucrates qui ne le comprennent pas et le freinent, devront faire leur perestroïka. Camarades, depuis 9 heures ce matin, notre ville compte désormais une nouvelle centrale électrique. Ce n'est pas tout, camarades. La brigade Soloviev a tenu parole. La station a été terminée 40 jours plus tôt que prévu.
Alors, dans ces films de propagande des années 30, dont on peut d'ailleurs voir un certain nombre au festival de Pessac, le héros, on vient de l'entendre, c'est l'ouvrier, c'est Stakhanov, c'est l'industrie, une politique d'industrialisation des premiers plans qui a été, on ne le dit pas souvent, désastreuse dans un pays qui était agricole. Ce sont d'abord les paysans qui ont le plus souffert du système stalinien, Nicolas Werth.
Oui, en lançant la collectivisation forcée des campagnes, et c'est évidemment l'autre volet de l'industrialisation, les deux vont ensemble. Staline cherchait à réaliser ce que Preobrajensky, un ami de Trotsky d'ailleurs, avait dans les années 20 appelé l'accumulation socialiste primitive, c'est-à-dire au fond pomper toutes les richesses du monde agricole vers le projet de l'industrialisation et de la modernisation du pays, qui, il faut bien le dire, a été d'un certain côté un succès, mais qui a coûté évidemment un prix absolument considérable, c'est-à-dire d'abord l'expropriation qui s'est faite aux dépens donc de l'expropriation de millions de foyers paysans, et ensuite, qui a eu pour résultat cette expropriation et cette collectivisation de l'agriculture avec un prélèvement prédateur de l'État sur toutes les récoltes, qui a eu pour conséquence, quand même, 2 ans plus tard, une terrible famine.
En Ukraine.
En Ukraine et pas seulement en Ukraine.
Et vous en parlez d'ailleurs dans un CD hein, qui a été diffusé récemment. Alors, cette politique est critiquée, vous l'avez dit, par l'appareil du parti, par Boukharine notamment, qui a été une des premières victimes de ce qu'on a appelé la grande terreur, visant non pas les adversaires politiques du régime soviétique, il n'y en avait plus, mais ses plus hauts responsables, accusés de trahir l'URSS, condamnés à mort et exécutés après avoir été jugés publiquement dans des procès animés par le redoutable procureur de Staline, Andrei Vyshinsky.
Asseyez-vous.
Tous les ennemis et saboteurs ici présents, qu'ils se cachent sous le drapeau de Trotsky ou de Boukharine, ne font plus partie des courants politiques du mouvement des travailleurs. Ils se sont transformés en une bande sans principes et sans idéaux, une bande d'ennemis, de saboteurs, d'espions et d'assassins professionnels. Ils doivent être écrasés et détruits sans merci. Joseph Staline, que les députés soient des combattants intrépides, impitoyables envers les ennemis du peuple comme l'était Lénine. Qu'ils soient justes et honnêtes comme l'était Lénine. Qu'ils aiment leur peuple comme l'aimait Lénine. Vive notre cher ami créateur de l'humanité, le camarade Staline.
Alors on a entendu Staline en 1937 pendant ce qu'on a appelé les grandes purges qui ont décimé le parti. Ce qui a évidemment surpris, c'est que les victimes ne sont plus les blancs comme autrefois pendant la guerre civile, puisqu'il n'y a plus d'adversaires, il n'y a plus de parti politique d'opposition. C'est le parti lui-même qui est touché, Nicolas Wert, et oui. À sa tête.
C'est à sa tête, ce sont tous ces gens qui ont souvenir, qui ont mémoire du léninisme, ce sont tous ces gens aussi qui peuvent être remplacés, parce que Staline souhaite remplacer et mettre en place des cadres qui lui sont plus jeunes, qui lui sont totalement dévoués et fidèles. Il ne faut pas oublier que c'est la génération des Brejnev, Gromyko, Souslov, tous ceux qui seront là jusqu'à la fin de l'URSS. Ce sont des jeunes gens qui sont promus, et c'est évidemment donc par, à la fois on parle beaucoup des purges, et on a raison de parler des purges, mais il ne faut jamais oublier que derrière les purges, il y a la promotion de toute une génération. Les deux vont évidemment ensemble, des gens qui sont totalement fidèles à Staline parce qu'ils lui doivent tout et qui n'ont plus le souvenir, si vous voulez, de la révolution de 1917.
Tandis que sont fusillés, hein, c'était tragique cette histoire, d'autant plus que tout le monde l'a pu la connaître. Elle était rendue publique, celle-là, alors Kamenev, Zinoviev, des compagnons de route qui étaient au bureau politique, qui étaient à la tête du parti bolchevique au moment de la révolution, Boukharine, Trotsky, qui lui, n'étant plus en URSS, sera assassiné en 1940, l'armée aussi, l'armée dont 75 des 80 000 officiers ont été tués, 75 000 des 80 000 officiers tués, dont le maréchal Tukhachevski. L'armée elle-même est épurée.
Avec des conséquences absolument dramatiques sur le commandement lorsque l'Allemagne nazie attaque 4 ans plus tard l'Union soviétique. Évidemment, ça c'est l'aspect donc que l'on connaissait relativement bien.
Alors oui, justement, cela dit, ça n'explique pas le nombre des victimes. Et ça, c'est la grande révélation de votre livre, L'ivrogne et la marchande de fleurs, parce que vous parlez de 750 000 victimes. Si on avait décimé presque tout le parti, il n'y en aurait pas eu autant. Et ces dirigeants, ça ne représentait pas ces procédés publics, on les a connus. Ce que l'on ne savait pas, c'est ce que montre votre livre, c'est que ces 750 000 victimes, ça pouvait être n'importe qui. Et que l'élimination de cette époque-là, 37-38, a été tragique.
Oui, il y a eu deux aspects. Bon, l'aspect, disons, connu, l'aspect public de la Grande Terreur, c'est celui qu'a révélé Khrushchev au 20e congrès, c'est-à-dire les purges, véritablement. Là, on peut parler des purges, donc des appareils économiques, politiques, militaires. Mais il y a l'autre aspect qui est celui qu'ont révélé les archives, c'est-à-dire c'est l'aspect secret, absolument secret, donc des opérations dites secrètes de masse lancées directement par Staline et Iejov pour nettoyer une fois pour toutes, éradiquer tous les éléments qu'il appelait socialement nuisibles ou ethniquement étrangers dans la perspective de la Seconde Guerre mondiale qu'il voyait très clairement. Donc pour Staline, il s'agissait d'éliminer tous les éléments qui lui semblaient dans la société douteux.
Je vous cite d'ailleurs, c'est cet ordre 00447 du 30 juillet 1937, Staline dit « J'ordonne de commencer l'opération de répression des ex-coulacs, c'est-à-dire les paysans, criminels et autres éléments anti-soviétiques à partir du 5 août 1937. Bilan, 750 000 morts, sans compter 200 000 qui sont morts dans les camps, sans compter le nombre considérable de déportés. »
Oui, alors donc, ce qui est extraordinairement intéressant dans cette répression secrète de masse, c'est qu'elle se fait sur la base de quotas attribués à chaque région dans ces ordres. Donc chaque responsable du parti et du NKVD local recevait un quota de gens, à traiter en première catégorie, c'est-à-dire peine de mort, ou en deuxième catégorie, 10 ans de camp. Et donc, une fois que ces quotas sont lancés, on assiste à une extraordinaire aussi mouvement de surenchère des responsables locaux qui comprennent bien qu'ils sont sous pression et qui vont demander, anticiper et donc demander des rallonges à Staline. Et donc, c'est sur la base de tous ces télégrammes secrets codés, où on ne parle jamais de peine de mort, mais à traiter en première catégorie, qu'est fondé, entre autres, ce livre. Pourquoi le titre en deux mots? Parce que ce n'est pas très clair. L'ivrogne et la marchande de fleurs, il faut bien voir aussi le sous-titre, l'autopsie d'un meurtre de masse. Eh bien, l'ivrogne et la marchande de fleurs, parce que ce sont deux micro-histoires, deux personnes finalement un peu happées au hasard, qui n'appartenaient pas aux catégories définies par le régime. Par exemple, l'ivrogne, c'était un brave cheminot qui, autant était donc proche du régime, puis c'était un membre de la classe ouvrière, qui avait un peu bu en octobre 37, qui fait du scandale dans une buvette d'une gare de banlieue de Moscou et qui jette son verre sur le portrait de Kalinine, qui était le chef de l'État soviétique. Et puis, à partir de ce moment-là, bon, au lieu d'être traité par la police pour hooliganisme, il se retrouve donc au NKVD, parce que tout simplement le chef local de
le
KGB de l'époque avait besoin de remplir son quota pour... pour son chef de 30 éléments socialement nuisibles à éliminer.
Alors, vous l'avez dit, l'URSS n'est pas prête à ce moment-là, compte tenu de ce qui s'y passe, à faire face à une éventuelle guerre contre l'Allemagne. Il y a ce fameux pacte germano-soviétique qui paraît insensé entre l'Allemagne nazie et l'URSS communiste. Pacte qui est rompu lorsqu'en juin 1941, l'armée allemande envahit l'URSS. Staline n'a alors plus que des mots à opposer à Hitler, en faisant appel non plus aux idéaux et de la Révolution, mais au patriotisme des Russes, et en évoquant même les héros de la Russie impériale.
Партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную.
Camarades de l'armée rouge et de la marine, officiers et commissaires politiques, résistants et résistantes, le monde entier vous regarde. Une grande mission civilisatrice vous attend. Soyez dignes de cette mission. Vous menez une guerre libératrice juste. Puissiez-vous être inspiré par l'image amicale de nos grands ancêtres. Alexandre Nevsky, Mikhail Kutuzov, inspirez-vous du drapeau invincible du grand Lénine. Pour la défaite totale des envahisseurs allemands, mort aux occupants allemands, vive notre glorieuse patrie, vive la cause de la liberté et de l'indépendance, derrière le drapeau de Lénine, en avant vers la victoire.
Alors Staline, galvanisant les Russes en faisant appel, on l'a entendu, non seulement à la mémoire de Lénine, mais à celle d'Alexandre Nevsky, Kutuzov, qui avait repoussé Napoléon en 1812. C'est assez extraordinaire, il prend une autre dimension, ça devient le chef de la patrie et pas le chef d'un pays communiste.
Voilà, et c'est son coup de génie. Il a attendu quand même 9 jours entre le moment de l'invasion et le moment où il prononce ce discours, le 3 juillet 1941. Et évidemment, son coup de génie, c'est de pouvoir ainsi essayer de mobiliser une population qui a souffert énormément. Le Troufion de deuxième classe, bon, c'est un fils de paysan. Il n'est pas populaire du tout dans son pays à ce moment-là, contrairement à une légende. Staline ne devient populaire que grâce à Stalingrad, grâce à la victoire. Et les soldats allaient au combat avec « Vive la Boesa Staline, la Boesa Rodino », donc « Luttons pour Staline, luttons pour la patrie », c'est évidemment ce coup de génie politique, car il ne faut jamais oublier que derrière le criminel, il y a un homme d'un génie politique, un stratège, un tacticien de la politique, absolument hors pair.
Et puis donc un pays qui a marché comme un seul homme, 20 millions de morts quand même, mais ça a conduit le pays de l'URSS à la victoire, à élargir ses frontières et son influence en Europe de l'Est, en devenant aussi une des deux superpuissances de l'après-guerre, Russie à laquelle en 1949 Staline donnait l'arme nucléaire. Il y avait de quoi alimenter la même année, en 1949, le culte de la personnalité qui allait atteindre son apogée à l'occasion du 70e anniversaire de Staline.
Aujourd'hui est une grande journée. Nous fêtons le 70e anniversaire du cher camarade Staline.
Кантата о Сталине, музыка композитора Александрова.
Dans ce mot, il y a force, santé, bonheur. De la terre jusqu'au soleil, au-dessus de la gloire de notre peuple, ce mot s'élève comme l'arc-en-ciel aux sept bandes. Il monte comme un chant au-dessus des jardins, là où les sommets vibrent dans la lumière, laissant les aigles sans ailes. Ce mot, ce grand mot, c'est Staline, âme, chair et sang du peuple.
Âme, chair et sang du peuple, mais aussi petit père des peuples, coryphée de la science, guide génial du prolétariat international et même mécano de la locomotive de l'histoire. C'est extraordinaire ce culte de la personnalité qui a été dénoncé en 1956, mais qui était inouï. Ça fait sourire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pris très au sérieux.
Ce qui est d'autant plus inouï, c'est qu'il ait dépassé les frontières et de l'URSS, des pays occupé par l'Union soviétique et qu'ils se répandent dans des pays comme la France. C'est quand même extraordinaire. Voilà un dictateur sanguinaire qui en plus est, comme le dit ce film donc, du PCF, l'homme que nous aimons le plus. Donc là, il y a aussi un
film extraordinaire qu'on peut voir à Pessac et qui est un hommage absolument dithyrambique à Staline.
Dithyrambique de tous les paysans, ouvriers français, communistes ou proches du PC, qui apportent leur obol donc pour envoyer un wagon entier de cadeaux pour Staline, pour le camarade Staline.
Et alors que la terreur continue, alors qu'on aurait pu croire qu'elle n'avait plus de sens à ce moment-là, nous sommes après la guerre, après la victoire de l'URSS, eh bien, elle continue. Il y a d'abord ces procès dans les pays de l'Est qui ont été satellisés par l'URSS. Il y a aussi, en janvier 1953, ce qu'on appelait le complot des blouses blanches. Alors là, un complot complètement fou, imaginé par Staline, qui croyait qu'un certain nombre de médecins du Kremlin voulaient assassiner la direction du parti.
Oui, surtout, il faut rajouter des médecins juif. Et donc cet antisémitisme du stalinisme vieillissant, il faut quand même le remettre en perspective, c'est-à-dire c'est après Auschwitz, après l'Holocauste. Enfin, donc c'est d'autant, je dirais, enfin, plus frappant, plus grave, qu'au fond, il y a donc cette campagne antisémite qui, heureusement, n'a pas le temps de se développer parce que Staline meurt quelques semaines après le lancement de ce vaste complot, mais qui a eu le temps de se développer avant, puisque au fond le complot des blouses blanches, c'est un des derniers avatars, disons, d'une campagne antisémite qui s'est développée d'abord sous l'influence soviétique dans les pays de l'Est, bon, avec tous les grands procès de dirigeants juifs, communistes. Et donc, c'est évidemment l'amorce, sans doute, d'une nouvelle grande campagne de terreur qui est arrêtée à temps, mais simplement par la mort de Staline le 5 mars 1953.
Annoncé à la radio de Moscou avec une voix et une musique de circonstance.
Прощай, наш учитель и вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталин.
Joseph Staline est mort. Chef du plus vaste empire du monde, a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Depuis 1924, il avait pris la succession de Lénine et assumé à la fois la conduite du peuple russe et celle du régime soviétique. Qu'adviendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne ? Divinisé par ses fidèles, honni par ses adversaires, on peut dire que Staline, l'homme d'acier, fut un extraordinaire bâtisseur. La force soviétique créée par lui est l'un des pôles du monde d'aujourd'hui. Qu'en feront ses successeurs ?
Et oui, il y a de l'admiration aussi hein, dans les commentaires des actualités de l'époque, des actualités françaises de l'époque. Alors ses successeurs, on le sait, vont déstaliniser. En 1956, c'est le 20e congrès, on dévoile les crimes de Staline.
Une partie.
D'ailleurs, partie. Ce qui n'est pas du tout... On révèle aussi le fameux testament de Lénine, parce qu'il avait été caché pendant longtemps. Et ce qui n'est pas du tout du goût d'ailleurs des PC, non seulement de certains PC de pays de l'Est, mais même à l'Ouest. Le Parti communiste français n'a pas du tout apprécié qu'on déstalinise. Comme ça.
Absolument, puisque pendant longtemps, on parlait d'un rapport attribué au camarade Khrushchev.
Alors, ce qui est assez curieux quand même, c'est que malgré tout ce qui a été révélé, de nouvelles révélations comme celles que vous faites, Nicolas Werth, eh bien, on s'aperçoit qu'au fond, le communisme est peut-être mort depuis 89, mais le stalinisme, ou en tout cas Staline, ne l'est pas vraiment. Il y a cette phrase extraordinaire de Evgeny Evtouchenko qui disait en 53, doubler, tripler la garde autour de cette tombe, que jamais Staline n'en sorte, ni le passé avec Staline. Or, il se trouve que Staline, il est encore assez populaire en URSS.
Relativement. Enfin, disons que je pense que la jeunesse d'aujourd'hui ne s'intéresse pas vraiment à ce passé, mais on le sait, encore récemment, dans un des derniers manuels scolaires, on a traité, Staline de manager efficace. Bon, Staline est celui qui, dans cette histoire nationale, aujourd'hui, enfin, telle qu'elle est vue aujourd'hui par le pouvoir poutinien, c'est celui qui a construit la grandeur de l'URSS, qui en a fait une superpuissance. Je dirais que cette superpuissance s'est faite malgré Staline, hein, on peut dire aussi, parce que à quelle souffrance, vous avez évoqué les 20 millions de morts pendant l'Union soviétique, pendant la guerre. Il y avait absolument la barbarie nazie qui était beaucoup plus forte que chez nous, mais aussi... il n'y aurait peut-être pas eu tous ces 20 millions si Staline n'avait pas fait autant d'erreurs stratégiques.
Merci Nicolas Werth. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres sur le sujet, notamment L'ivrogne et la marchande de fleurs, autopsie d'un meurtre de masse, publié chez Talandier, La terreur et le désarroi, Staline et son système, publié chez Perrin dans la collection Timpus, L'histoire de l'Union soviétique en deux volumes, chez Que sais-je, et L'île aux cannibales, une déportation abandon en Sibérie en 1933 chez Perrin dans la collection Timpus. Vous pouvez venir aussi de faire paraître un CD audio consacré à la grande famine en Ukraine. Vous avez pu entendre deux archives pâtées de 53 et 61 extraites du journal de votre année, disponibles en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Christophe Michou, Tanguy Le Corneau, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, notre réalisatrice Anne Kobilac. Merci aussi au Festival de Pessac de nous accueillir et à tout le public qui est venu nombreux dans cette salle pour assister à cette émission. Merci à tous. Demain, dans 2000 ans d'histoire, toujours en public et en direct du 20e Festival international du film d'histoire de Pessac, avec Stéphane Courtois, le Parti communiste français.